Bonjour tout le monde.
Et maintenant, au micro, nous avons... Tu peux te présenter ?
Il faut que je parle de l'amour.
Vous dites... Oui. Vous dites le mot, là, l'amour.
L'amour.
Ce soir, sur les ondes...
Vous êtes dans vos voitures, derrière votre poste radio.
Ah oui, ça va être enregistré.
Ça fait 15 ans qu'on est qu'au Studio Zef.
Hey, bienvenue sur Studio Zef, une radio du département du 41 située dans Blois. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une classe de seconde professionnelle du lycée Horticole de Blois, les secondes CPJ Horti.
Effectivement, c'est une classe divisée en deux groupes, conseiller et vente jardinerie et production horticole. Six groupes de trois élèves vont vous présenter chacun un thème avec tous un point commun, la technologie et la planète. La révolution numérique et l'avenir de la planète. C'est aussi la première fois que Théo et moi-même prenons le rôle d'animateur radio. Pas trop stressé ?
Non, je suis chaud comme la presse, je pète la forme.
Eh ben c'est super alors. D'ailleurs, nous remercions Émilie pour avoir préparé le texte avec Théo.
Commençons avec le premier groupe. Mais attends, est-ce qu'avant de commencer, on s'écouterait pas un petit morceau de musique ? Qu'est-ce qu'on se met ?
Eh ben pourquoi pas du Billy Eilish ?
I don't
Pour ce premier groupe, cette première question, pourquoi, comment ?
Bah, laissons la parole à nos amis. Je vous présente Samuel, Gwendoline et Johan.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes actuellement en classe de seconde CVPJ et Horti. Et aujourd'hui, nous sommes en projet radio et nous nous sommes posé la question pourquoi notre génération Z est celle des réseaux sociaux ?
Tout d'abord, d'après Wikipédia, la génération Z, ou jeune génération dans la presse, souvent appelée les zoomers, regroupe les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Généralement, entre 1997 et 2012, elle succède à la génération Y et précède à la génération Alpha. Elle est définie comme une génération née alors que les communications numériques étaient déjà bien installées dans la société. La génération Z est tombée dans le chaudron du numérique.
Leur surnom de zoomer, d'après option C, ce surnom sonne comme une moquerie affectueuse et cache une vraie réalité. Ils sont nés dans la vitesse des flux d'informations, vitesse d'adaptation aux innovations technologiques, vitesse du jugement et de la discrimination sociale. Si la génération Y sont arrivés à l'adolescence avec MSN Messenger ou Skyblog, les zoomers ont eu Instagram dans la poussette et TikTok en guise de boîte à musique.
Et toi Samuel, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi je pense que effectivement la génération Z est née dans la technologie, ce qui la rapproche des réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok et Instagram. On va donc vous faire écouter notre reportage sur les réseaux sociaux et les zoomers. Vous passez combien de temps sur les réseaux sociaux en moyenne ?
Je dirais à peu près une heure.
Bah je dirais 30 minutes à une heure, hein, un truc comme ça.
Alors moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de réseaux sociaux au quotidien, je dirais 6 heures.
En moyenne sur les réseaux sociaux, je passe peut-être une ou deux heures, pas plus. Après, ça dépend des réseaux sociaux, mais je pense que c'est pas terrible quoi, pour certaines personnes, surtout pour les enfants.
Les réseaux sociaux, je passe pas beaucoup de temps parce que déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Puis comme je m'y connais pas beaucoup, en fait, pour moi, ça me prend un temps infini à essayer de chercher où est-ce que ça se trouve. Entre ceux, les personnes que je connais, les personnes que je connais pas, je sais jamais où aller trouver la bonne information. Donc je dirais une demi-heure par jour.
Combien de temps passez-vous par jour sur votre téléphone ?
Je dirais une ou deux heures. Selon les moments, mais pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, j'y vais pas tous les jours. Et j'ai vraiment un usage très très limité.
Quels réseaux sociaux préférez-vous ?
Franchement, c'est Insta.
TikTok.
Pourquoi ?
Parce que tu scrolls, alors que je sais pas, Snap, c'est juste pour se communiquer, tout ça.
Moi, c'est Instagram. Non, mais parce que en fait, sur Instagram, on peut poster des images comme des vidéos. Et puis moi, ça, c'est, j'aime bien, quoi.
Si je vous dis Instagram, c'est un réseau ?
Oui.
Ah, bon, voilà. C'est Insta pour moi.
Pourquoi préférez-vous celui-là plutôt qu'un autre ?
Ah, c'est qu'en fait, Facebook, c'est pour les vieux. TikTok, j'ai pas. C'est celui qui me convient le mieux, parce que c'est le plus facile pour moi à utiliser.
Instagram, parce que les gens sont très violents dans les commentaires, et c'est génial.
Pourquoi vous préférez Insta plutôt qu'un autre ?
Alors déjà, sur les autres, j'ai remarqué, il y a souvent des gens qui se critiquent ou qui s'insultent, alors que sur Insta, je trouve qu'il y a beaucoup moins de personnes qui font ça.
Est-ce que vous pensez que cela est utile ?
Non, c'est du passe-temps, mais des fois, mais très rarement, c'est un peu utile, genre... en termes de, je sais pas, tu t'arrives pas à faire quelque chose et tu regardes tout ça.
Est-ce que les réseaux sociaux sont utiles au quotidien ?
Pas forcément, non. Je pense que surtout pour les jeunes, parce qu'ils regardent pas forcément les infos, mais on est quand même beaucoup informés par les réseaux sociaux.
Franchement, ça fait passer le temps, hein. C'est pas vraiment mon passe-temps favori, mais au moins ça me fait passer le temps, hein.
En vrai, de vrai, c'est un peu inutile, mais c'est du passe-temps, sinon tu t'ennuies, quoi.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent bien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'utilisent mal pour critiquer les gens, etc.
Qu'est-ce que j'en pense ? Qu'il faudrait, en fait, qu'on puisse avoir des formations quand on atteint un certain âge pour pouvoir les utiliser. Non, c'est un très bon vecteur d'information quand on sait bien les utiliser, de communication. Donc, il y a vraiment des gros, gros avantages. Le problème, c'est que c'est tous les débordements qu'il peut y avoir et les risques qu'on prend parfois à les utiliser sans être vraiment au courant de tous les sujets qui... sont apportés.
Il y a sans doute des choses positives et d'autres qui le sont moins. Positif, c'est que ça permet de garder un lien quand même. Et négative, c'est que ça prend énormément de place et puis il y a quand même des risques sur certains comportements. Soit de passer beaucoup de temps sur son téléphone, mais surtout d'être exposé sans arrêt à la vie des autres. Et ça, je pense que c'est vraiment difficile.
Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup.
De rien, au revoir.
En conclusion, on s'aperçoit que les zoomers vivent quotidiennement avec les réseaux sociaux. Ça s'est inscrit dans leur train-train, les habitudes de vie. Ils s'en servent même pour s'informer sur l'actualité sans jamais vérifier la fiabilité des informations. On peut même parler dans certains cas d'addiction.
C'était très intéressant, dis-moi.
Oui, mais sans plus tarder, nous vous présentons le prochain groupe.
Nous accueillons maintenant le deuxième groupe.
Eh bien oui, maintenant, nouvelle interrogation. Est-ce que le numérique nous permet vraiment de mieux vivre ?
Regardez une bonne vidéo sur YouTube sur mon canapé ? Ah bah oui, ça montre bien que le numérique permet de mieux vivre.
Eh bien, laissons la place à Mathéo, Adrien et Romain. Bonjour.
Bonjour. Selon plusieurs recherches et plusieurs affirmations de sites, le smartphone transforme nos interactions et facilite notre vie quotidienne. Les messages permettent de rester en contact et font partie de notre quotidien, rester connecté et de profiter de nouvelles formes de divertissement. Des outils nous connectent aux proches qui sont loin, comme la visio qui nous a été grandement utile pendant le confinement. Le numérique améliore notre qualité de vie en facilitant l'accès à l'information, pour suivre l'actualité et poursuivre les informations. En bref, élargir nos horizons. Le numérique nous permet de nouvelles pratiques de travail avec le télétravail. Par exemple, travailler à distance tout en étant chez soi, pas besoin de se déplacer et c'est très confortable.
Oui, le digital peut rendre heureux quand il enrichit le réel, affirme le psychologue Michael Stora. Par exemple, à la sortie, quand des collégiens sortent leur téléphone de leur établissement pour se montrer des vidéos, les commenter, en rire, ils partagent alors leur écran dans la réalité et vivent un vrai moment de qualité, de joie, d'échange, de connexion à l'autre. Le numérique a bien d'autres avantages. Un tas d'applications peuvent nous aider à mieux vivre notre vie de tous les jours, comme celle de méditation, calme, petit bambou, d'organisation, d'écriture pour les écrivains en herbe. Alors oui, le digital peut nous rendre plus heureux.
Maintenant, faisons place aux audios qu'on a enregistrés hier.
Bon, aujourd'hui, on va questionner un élève de première Horti qui s'appelle Manuel.
Est-ce que le numérique vous aide au quotidien ? Si oui, comment ?
Moi, je pense que le numérique, c'est un outil incroyable. Ça m'aide notamment à regarder, par exemple, quand les bus passent, acheter des billets de train, me déplacer, manger quelque chose, m'informer, regarder des choses divertissantes. Malheureusement, j'en ai un usage trop important. Du coup, je perds énormément de temps dessus. Mais voilà, si c'est bien dosé, c'est un outil incroyable.
Est-ce que pour vous, être heureux dépend du numérique ?
Du numérique ?
Oui.
Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, moi, non. Par contre, c'est très pratique quand même. Donc, ça simplifie beaucoup de choses au niveau quotidien. Mais je ne suis pas sûre que ça soit réellement mieux vivre, voilà. Parce que ça prend aussi beaucoup de temps.
Est-ce que le bonheur dépend du numérique ? Très bonne question. Non, parce que j'ai vécu sans numérique, donc imaginez comment je suis vieille. Et si le numérique dépendait du bonheur, ça veut dire que 20 ans de ma vie, en fait, j'aurais été malheureuse. Donc non, pour moi, ça... Alors ça peut contribuer, ça participe. Mais c'est une belle évolution, mais je pense qu'on peut être heureux sans numérique.
Est-ce que le numérique t'aide au quotidien ? Si oui, comment ?
Oui, pour les devoirs, parce qu'il y a Pronote, et j'utilise l'IA aussi, et voilà.
Beaucoup d'IA pour faire quoi ?
Pour m'aider dans mes devoirs.
Oui, il m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne. Par exemple, je peux l'utiliser pour travailler, étudier, etc.
Est-ce que vous avez d'autres choses en commun avec le numérique ou c'est tout ?
Avec mon téléphone, oui, beaucoup. Je peux passer du temps sur les réseaux sociaux, envoyer des messages à des amis, à de la famille, et voilà.
Oui, donc pour vous, c'est bien de communiquer avec le numérique. Donc pour vous, c'est un bon moyen de communiquer avec vos amis ?
Oui. Oui, c'est ça.
Okay. Bon, merci. Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va et toi ?
Très bien. Vous êtes en quelle classe ?
On est en première TCVA.
Ok, nous allons vous poser des questions sur le numérique.
Est-ce que pour vous, être heureux dépend du numérique ?
En vrai, oui, parce qu'il y a l'IA.
Et vous ?
Non, pas du tout. Ça, c'est pas grand-chose, le numérique, en vrai. Ça sert pas à grand-chose, voilà.
Ensuite, une deuxième question pour vous.
Depuis que vous utilisez le numérique, vous vous sentez plus heureux ou moins heureux?
Bah alors là, je sais pas du tout. Parce que en vrai, ça m'apporte rien de... je sais pas.
Est-ce que pour vous, être heureux dépend du numérique?
Pour moi, je pense qu'il y contribue parce que beaucoup de relations qu'on peut pas avoir tout de suite. Par exemple, je vais être chez moi et je vais vouloir parler avec mon frère ou quelqu'un de ma famille, je vais pas pouvoir. Au lieu de lui envoyer une lettre, eh ben, je vais lui envoyer un petit message et ça va me faire plaisir. Donc pour moi, il y contribue.
Ok, d'accord. Et autre chose à rajouter?
Rien du tout.
Ok, bah merci.
Pour conclure, oui, le numérique permet de mieux vivre, surtout en tant que lycéen. Car selon plusieurs sources, partager avec les copains, s'envoyer des vidéos pour se donner rendez-vous, pour pouvoir se voir, tout ça grâce au numérique. Parfois, le numérique peut nous rendre addicts, avec par exemple certains jeux d'argent en ligne qui peuvent mettre en péril notre quotidien et créer des addictions. Mais il y a aussi des avantages comme Snapchat, Instagram, Twitter et TikTok, qui sont des moyens de communication pour se donner rendez-vous, s'envoyer des vidéos et des messages. Que ce soit à nos parents ou à nos amis, le numérique sert et est utile, mais il y a aussi certains dangers, donc il ne faut pas en abuser.
C'était... Eh bien, je ne trouve plus les mots.
Intéressant.
Oui, voilà.
Vous êtes toujours sur Studio Zef, la radio de Blois.
Bon, le groupe suivant... Mince, je ne me rappelle plus.
Théo, on avait révisé ça pourtant. Ça parle de l'avenir des humains avec Shanès, Fatoumata et Ilaïda.
Ah oui, c'est bon. Quel est l'impact de l'IA sur l'humain?
Oui, voilà.
Maintenant, place au troisième groupe.
Bonjour.
Bonjour les filles.
Bonjour. Aujourd'hui, l'IA est partout autour de nous. On la trouve sur nos téléphones, les réseaux sociaux, à l'école et même dans les entreprises. On ne s'en rend pas toujours compte, mais l'IA est toujours avec nous. Elle nous aide à gagner du temps et à apprendre plus vite. Mais est-ce qu'elle est bonne pour notre cerveau? C'est ce que nous allons voir avec nos interviews.
Du coup, notre sujet, ce sera sur les numériques impactent-elles la planète? Donc, on aura trois questions à vous poser. Donc, première question. Les numériques impactent-ils le cerveau humain?
Je pense que oui. Forcément, ça nous occupe beaucoup la journée, les mails, les images que l'on voit, toutes les informations qu'on a, et on est moins disponible pour plein d'autres choses.
Bah, je pense que t'as une conséquence du numérique sur le cerveau humain, puisque tu vas t'influencer par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux.
Je pense pas, mais ça peut nous cultiver si on regarde des contenus qui nous cultivent, comme des contenus scientifiques, par exemple.
Inévitablement, enfin, tout ce qui est en rapport avec l'être humain a un impact sur son cerveau. Après, si on parle du téléphone, par exemple, et de l'omniprésence du téléphone devant des humains, il y a forcément une incidence sur la neurologie. Enfin, les neurosciences nous montrent ça. Il y a une agitation très importante, une concentration très importante engagée dans ce qu'on regarde. Et puis, un cerveau humain, en fait, il termine d'être complètement formé à l'âge de 32 ans, d'après les neuroscientifiques.
Du coup, deuxième question. Est-ce que vous pensez que le numérique fait baisser le QI, quotient intellectuel?
C'est une question piège. Non. Maintenant, c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait du numérique. Si c'est pour regarder en boucle des choses pas intéressantes, voilà, c'est pas, ça va pas aider. Après, est-ce que ça fait baisser le QI? Déjà, qu'est-ce que le QI vraiment? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Et je suis pas sûr que ça le fasse baisser. Maintenant, ça le fait pas augmenter.
Bah, tu mets un enfant directement devant la télé. Oui, après, il va être peut-être moins intelligent. Parce qu'il n'aura pas eu autant de rapports humains que quelqu'un qui sera sorti.
Non, comme je l'ai dit à la première question, ça dépend de ce qu'on regarde. Non, je trouve que par exemple, les réseaux sociaux peuvent nous informer. On peut être des fois plus informé qu'une personne qui ne consulte pas les réseaux sociaux.
Moi, je ne sais pas. En fait, les scientifiques pourraient le dire. Mais c'est vrai que... Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en France, les mesures ont indiqué que le quotient intellectuel moyen était en baisse. On croit à ces données-là, enfin cette observation-là, avec le fait que le numérique soit omniprésent et qu'un jeune, et puis même plus âgé hein, de toute façon, sauf que le quotient intellectuel il se construit dès le plus jeune âge. Ce sont des réseaux de neurones qui se construisent et donc les capacités d'apprentissage sont liées à l'utilisation de ces neurones-là. Elles sont terriblement comment dire, mobilisé par l'utilisation de vidéos et du téléphone. En fait, le téléphone est, aujourd'hui est un vrai problème de santé publique, notamment chez les ados et chez les enfants. C'est pas, enfin, tous les scientifiques le disent. Alors moi, j'entends bien mes ados, hein, mes enfants à moi, qui me disent ah, gna, gna. Oui, ben si, en même temps, les scientifiques le disent. C'est pas tout à fait une grosse connerie que de dire ça. Après, comment on fait pour accompagner nos ados avec ces usages-là?
Ok, et dernière question, ce sera sur l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va nous rendre idiots?
Idiot non, mais plus feignant oui, c'est une certitude, forcément, puisque on a les réponses à beaucoup de choses sans rien faire. Maintenant, c'est un très bel outil, mais encore une fois, il faut apprendre à s'en servir.
Je pense que si on en abuse, oui, on va moins réfléchir, donc la conséquence, c'est qu'on aura moins d'esprit logique et qu'on va perdre en conscience intellectuelle.
Non, ça peut nous faciliter la vie. Il faut savoir se détacher de l'IA. Par exemple, quand on fait un devoir sur ChatGPT, il peut nous aider. On peut lui demander de comprendre le devoir, par exemple. Non, ça dépend de comment on l'utilise.
Est-ce que l'IA va nous rendre idiots? Je ne sais pas si elle va nous rendre idiots. J'en sais rien. Mais c'est une excellente question. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on l'utilise? Parce que l'intelligence artificielle, même si elle me fait terriblement peur, j'y peux pas grand-chose. L'intelligence artificielle, c'est la compilation de données qui sont héritées des connaissances humaines. Après, les ordinateurs mis en réseau se mettent à réfléchir tout seuls, à compulser des données, à les utiliser et parfois en créer. Et c'est là où, justement, nous, on est complètement dépassés. Le problème, c'est que en fait, on forme énormément aujourd'hui d'ingénieurs, de personnes qui sont extrêmement talentueuses, avec des expertises très très fines. Mais par contre, sur plein de choses dont l'humain a besoin, j'entends là manger, se soigner, construire sa maison, il y a plein d'apprentissages qu'on va perdre à un moment donné. En fait, je crois qu'avec l'utilisation effrénée de l'intelligence artificielle, on désapprend. On désapprend, on n'apprend plus. Donc le jour où, et ça arrivera, c'est inévitable, où il y aura une rupture énergétique, où le jour où on ne pourra plus maîtriser l'intelligence artificielle, où elle disparaîtra, qu'est-ce qui restera de l'ensemble des savoirs humains qui se sont cumulés sur des dizaines de milliers d'années? Qu'est-ce qui restera?
Ok, bah merci, ce sera la fin de nos questions. On vous souhaite une excellente journée. Pour notre conclusion, chaque 10 ans, il y a une baisse du quotient intellectuel. Mondialement, ce ne serait pas lié à des facteurs génétiques, mais plutôt environnementaux. Exemple, la consommation excessive du contenu court et immédiat sur les réseaux sociaux. Et les plateformes de streaming entraînent une baisse de l'attention et une capacité d'analyse. Et l'IA remplace l'effort intellectuel et met en danger nos capacités intellectuelles, d'après une étude publiée dans Futura Science en 2023.
Je suis resté figé à ma chaise.
T'arrives à te décoller au moins?
Oui, c'est bon.
Je le fais à ta place alors. Alors, présenté par Gabin, Justine et Valentin, est-ce que la technologie peut aider à sauvegarder l'environnement?
Donc, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes du lycée Horticole à Blois. Le 18 septembre 2025, nous avons enfin un projet radio qui consiste à interviewer des personnes et à leur poser des questions sur notre sujet, qui est-ce que le numérique peut aider à sauvegarder l'environnement?
Nous sommes allés interviewer des adultes, des élèves du lycée et d'autres personnes dans le lycée. Nous les écoutons.
Donc la première question, c'est vous pensez à quoi si je vous dis qu'il y a un lien entre le numérique et l'environnement?
Je dirais que je suis d'accord avec ça et qu'on pourrait exploiter le numérique pour l'environnement, mais ce n'est pas assez fait.
Moi, ça me fait penser à l'IA et à l'impact que ça a sur l'environnement.
Je pense direct à la pollution.
Je pense que tu as complètement raison. Il y a un énorme lien. Forcément, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait en tant qu'humain a forcément un lien avec l'environnement. Enfin, le numérique, c'est la mise à disposition de données partagées. On va se raconter ça. Et le numérique, si on veut le faire large, c'est les outils qui permettent à ces données d'être partagées. Ces données sont forcément stockées quelque part. Ce stockage-là prend de l'espace. Il prend de l'espace numérique, il bouffe de l'énergie. Et puis, pour construire les outils numériques, il faut forcément des matériaux, et notamment des matériaux qui viennent, de notre environnement. Alors, soit ce sont des matériaux purs, soit ce sont des matériaux transformés. Par l'extraction de ces matériaux, par la la transformation de ces matériaux, forcément on consomme de l'énergie, forcément on impacte également les espaces naturels, forcément, et donc ça a forcément un impact aussi sur les écosystèmes.
Alors déjà la pollution, donc éventuellement avec tout ce qui est l'outil électronique, donc la pollution, avec toutes les centrales électriques qui fournissent justement ces éléments.
Moi directement ça me ferait penser à l'IA, à la pollution. Parce que plus ça va, plus le numérique, ça utilise l'électricité, l'IA elle utilise de l'eau, donc en fait au fur et à mesure on dégrade de plus en plus la planète, puis ça participe je pense un peu tout ça, ce qui est électricité, au réchauffement climatique.
Là ça me fait bizarre d'un coup, mais certainement, parce qu'aujourd'hui le numérique est au cœur de notre vie, de nos usages. Donc je pense que de toute façon, il y a plein de données numériques collectées qui permettent peut-être de mieux contrôler notre environnement.
Deuxième question, pensez-vous que si le numérique se développe, ça améliorerait ou dégradera l'environnement ?
Ça dégradera forcément l'environnement.
Ah, je pense que ça dégrade l'environnement et ça continuera de le dégrader. Alors non seulement le fait de déployer, mais aussi le fait de consommer du numérique, ça dégrade l'environnement. Puisque le fait, par exemple, de faire appel à l'intelligence artificielle, je vous la fais courte, on prend des éléments pour se marrer et puis on essaie de construire une vidéo avec une fausse vidéo. Avec une personne, un personnage politique ou un acteur, et puis on lui fait dire n'importe quoi, vous videz un lac, en fait. C'est-à-dire qu'en termes de consommation énergétique, c'est juste monumental. On n'a pas des usages suffisamment raisonnés et raisonnables pour pouvoir se dire qu'on préserve véritablement l'environnement avec le numérique. Ce n'est pas le cas.
Comme je l'ai dit, par exemple avec ChatGPT, le fait qu'on s'en serve quotidiennement, ça consomme énormément d'eau sur la planète.
Non, je pense que justement ça augmenterait le bail en fait.
Ça va complètement le dégrader.
Le numérique, c'est une source de pollution pour l'environnement, ça c'est sûr. Plus il y a de numérique, plus ça pollue, on s'en rend pas compte. Après, ça permet d'avoir aussi beaucoup d'informations sur notre environnement, des capteurs, etc., des sondes qui peuvent permettre de mesurer. Après, est-ce que dégrader ou pas, on va dire que c'est, on aura plus d'informations sur l'environnement, mais après, qu'est-ce qu'on en fera de cette information-là, j'en suis pas... Pour l'instant, je ne pourrais pas vous le dire.
Je pense qu'il y aura un gros impact écologique et même sur notre vie plus tard. Sur les métiers, en train de parler justement de l'IA en ce moment et toute l'intelligence artificielle. Donc là, c'est en train de casser les métiers, donc il va y avoir plus d'emplois. Donc tout le monde va sûrement finir sans emploi et à la rue, donc ça serait vraiment dommage.
Troisième question, que mettez-vous en place dans votre quotidien pour réduire le numérique ?
Je scrolle moins, ça c'est le premier truc. Je me suis enlevé des réseaux sociaux aussi.
Rien du tout.
Moins utiliser l'IA, parce que ça utilise une sacrée quantité d'eau et on s'en rend pas compte. Donc les océans, ça va à force si on continue, il va y en avoir de moins en moins.
J'essaye déjà d'utiliser moins de possible de téléphone et de me débrouiller par moi-même, mais c'est vrai que maintenant on s'est tellement habitué à la technologie que c'est compliqué de faire sans.
Ah non, moi je fais rien, moi je continue à faire ma vie, pollution ou pas, écoutez, c'est comme ça.
Réduire le numérique, je ne dois pas être un bon exemple. Aujourd'hui, on va dire que se passer du numérique, c'est presque impossible dans la vie de tous les jours. Se raccrocher à la nature, à la terre, on va dire que c'est bien, mais le numérique de toute façon fait partie de nos vies et on nous force aussi, on nous contraint malheureusement aujourd'hui à avoir que du numérique. Alors là-bas, ça devait remplacer le papier, on a toujours autant de papier, autant de numérique. Mais moi, je n'ai pas mon usage du numérique parce qu'on nous force aussi à aller dans cette voie-là. Après, il faut être conscient, on va dire, des pollutions que ça peut engendrer aussi, malheureusement.
Il y a les temps d'écran qui s'arrêtent à un moment donné. Genre, il y a le temps, je vérifie beaucoup le temps. Et puis, j'essaie de faire des activités en dehors de mon téléphone, genre lire et sinon pas grand-chose parce que je suis assez dépendante.
Alors du coup, je gagne du temps de vie, du temps où je sors, où je vois des gens qui sont différents de moi. Ça me permet quand même aussi d'être dans la vraie vie et de ne pas être assommé par le flux d'informations qui me semble incroyablement gigantesque et monumental par rapport à ma capacité à les intégrer. Et je trouve que accéder à toutes ces informations extrêmement négatives, parce que la plupart du temps c'est négatif, ça a un impact très toxique sur mon état mental. Donc je préfère regarder les choses positives avec les gens qui sont autour de moi. Ça me permet aussi de retrouver la maîtrise de ma vie et puis de me sentir sentir que je peux avoir un impact autour de moi, parce que moi sur le monde j'ai pas d'impact et donc ça me rend triste de voir le monde tel qu'il est. En revanche, en sortant, j'ai un impact sur mon voisin, j'ai un impact sur les gens que je croise, et c'est à cet endroit là que je trouve le plus de sources de satisfaction en vrai. Voilà.
En conclusion, à la fin de l'interview, nous avons constaté que les personnes pensent la même chose sur le numérique et aussi sur l'environnement, car ils disent, je cite, « Je pense que le numérique sera plus néfaste pour la planète que bénéfique. »
Selon M. Limousin, professeur de biologie, les données numériques peuvent aider à connaître l'environnement, mais est très polluante. Selon un communiqué de l'État du 6 novembre 2025, nous avons de vrais gains environnementaux, mais modeste face aux objectifs nationaux.
Mathéo ?
Hein ? Oui ?
Tu fais quoi sur ton téléphone ?
Attends, je regarde...
On est en pleine émission radio.
Attends, je regarde des informations sur Alxploria.
C'est quoi ça encore ?
Une IA pour voir si elle peut sauver la planète.
Mais c'est pas le prochain groupe ?
Ah oui, c'est vrai.
Bon, présenté par Nelia, Sophia et Yuna.
Est-ce que l'IA permet de sauver la planète ?
Mathéo ?
Oui, c'est bon, je pose mon téléphone, j'ai compris.
Depuis quand l'intelligence artificielle existe-t-elle ?
L'IA existe en tant que concept théorique depuis 1950, mais ses avancées significatives remontent aux 30 voire 40 dernières années, avec des applications se développant à partir des années 1980 et 1990.
Depuis, l'intelligence artificielle est parmi nous. Le développement poussé de l'IA a permis sa popularité avec plein de nouvelles applications beaucoup plus performantes. L'IA permettra-t-elle de sauver la planète ? Quel est son impact sur le réchauffement climatique ? Si le numérique s'installe dans tous les domaines, on pourrait marquer la fin du papier et cela pourrait arrêter la déforestation. Passons à notre enregistrement. Que pensez-vous de l'IA ?
L'IA, en vrai, c'est bien et c'est pas bien parce que bah, quand on utilise l'IA, généralement, on limite nos capacités alors que bah, c'est pas bien.
Et ça pollue beaucoup. Voilà. C'est grosse pollution.
Ouais, ça pollue beaucoup.
Est-ce que vous utilisez l'IA ?
Non, clairement pas.
Tous les jours.
Pourquoi ?
Parce que j'en ai besoin. Tu cherches une liste de produits, tu demandes à l'IA, il te sort toutes les références.
J'avoue.
C'est incroyable.
Que pensez-vous de l'IA ?
Je pense que c'est très mauvais parce que... on est un peu dépendant de ça.
C'est un peu nul. Enfin, c'est utile pour certains trucs, mais pour d'autres, c'est pas utile, quoi.
L'intelligence artificielle, tu veux dire ?
Oui, c'est ça.
Je préfère l'intelligence humaine, à vrai dire. Ça me fait extrêmement peur, en fait. C'est la consommation des énergies, le non-respect de l'environnement, c'est le fait de se faire dépasser, c'est quelle éthique on met en place pour... faire en sorte qu'on ne soit pas complètement dépassé. Et puis, c'est aussi la disparition de plein de métiers. Au final, on va se retrouver dans un monde où on va avoir 7 milliards de chômeurs, 1 milliard de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, et puis l'intelligence artificielle qui fait tout le reste du boulot. Donc, en quoi ça décharge l'humain et en quoi, collectivement, ça nous permet de mieux vivre ? Ça, c'est une vraie question. Parce que pour le moment, je vois surtout beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Et puis... beaucoup de limites. En même temps, c'est aussi plein de choses extraordinaires sur le registre scientifique, mais à quel prix, quoi ?
Est-ce que vous utilisez l'IA ?
Oui, souvent. Et même des fois, ça m'aide à comprendre des questions que je n'ai pas comprises.
Non, pas au quotidien. Après, oui, je peux lui poser des questions, par exemple en anglais, pour traduire, mais sinon, non.
C'est pas si mal que ça. Ça pollue beaucoup, hein, mais c'est incroyable.
Est-ce que vous utilisez l'IA ?
Tous les jours.
Pour quelle utilité ?
Quand j'ai besoin de chercher un truc et que j'ai pas envie de regarder une centaine de références, je demande une classification directement par l'IA. Il m'envoie les liens et c'est facile, propre, net, précis.
Est-ce que l'IA sera sauvée ? Non, est-ce que le monde sera sauvé par l'IA ?
Non, parce que je pense que l'IA peut pas trouver ça. Ou alors il peut donner des astuces ou que ça peut peut-être aller mieux ou quoi que ce soit, mais je pense que non.
Non. Parce que. Après, il peut donner des solutions, mais non. Au contraire, il pollue.
Ah non, là on part sur un truc très mauvais. L'IA, ça va plus impacter notre vie qu'autre chose.
L'IA, je trouve que c'est pas très bien, parce que c'est super, hein, parce que ça donne énormément de réponses et des choses complètes. Mais c'est pas bon pour l'environnement, c'est très...
Non, pas du tout. Des vies peut-être seront sauvées parce que ça permet de réaliser des diagnostics. Enfin, je veux dire, de manière indirecte, l'IA est un outil. Et on peut dire ce qu'on veut, de toute façon c'est comme ça. Le truc c'est qu'on est déjà dépassé. Enfin, quand je dis dépassé, c'est la conscience humaine est déjà dépassée par les progrès. Et en fait, je vous renvoie à Emmanuel Kant, qui est un philosophe allemand du 19e siècle, qui posait la question justement du progrès et jusqu'où on peut aller en termes de progrès et comment il faut le tenir ce progrès. C'est-à-dire quelle éthique, c'est pas la morale, hein. Quelles limites on pose. Je crois que les limites se sont dépassées et je suis particulièrement inquiet pour l'environnement et pour l'humain.
Est-ce que le monde sera sauvé par l'IA ?
Non, clairement pas, elle va tout se détruire. C'est clairement pas une bonne chose d'IA, mais maintenant elle est tellement utile. Si t'en fais une bonne utilisation, elle peut être clairement... bénéfique pour toi, elle peut te faire un gain de temps, mais il faut savoir se restreindre et ne pas faire de bêtises avec.
Ça va nous remplacer en fait, ça va remplacer certains travaux, Par exemple, des personnes qui vont faire beaucoup d'études, bah, ça va plus servir à rien, quoi.
Maintenant, on a des robots qui sont contrôlés par l'IA, qui vont peut-être prochainement prendre la place de certains métiers. Donc oui, elle met en danger l'humanité, mais on ne sait pas encore de quoi l'avenir est fait.
D'ailleurs, à la remise des prix Nobel, un scientifique a dit qu'on n'était pas loin de la pire crise mondiale au-delà du climat, engendrée par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a plein de garde-fous, plein de limites qu'il faut réussir à poser dans un monde extrêmement déséquilibré, avec des personnes qui arrivent au pouvoir et pas forcément toujours de manière démocratique. Dans un monde où certes, les personnes qui disent que la Terre est plate ont autant de pouvoir que ceux qui disent qu'elle est ronde, on peut quand même s'inquiéter.
En conclusion, ce qui nous mène à vous parler d'un film sorti en 2025 nommé Chien 51. Ce film nous parle du monde futuriste dans lequel Paris est divisé en trois zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle nommée Alma est venu révolutionner le travail de la police, jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers travaillant dans deux classes sociales différentes, soient forcés de collaborer pour mener l'enquête et découvrent que l'IA se retourne contre le monde.
Merci beaucoup les filles.
Mais dis-moi Théo, tu sais qui est le prochain groupe ?
Oui, je crois que c'est le groupe d'Amandine, Mathéo et Yed.
Mais effectivement, j'y fais partie. Bonjour Amandine, bonjour Yed.
Bonjour. Bonjour. Nous sommes en seconde CVPJ au lycée Horticole de Blois. Pour notre projet radio, nous allons aborder le thème de l'intelligence des plantes. Nous allons maintenant écouter Monsieur Limousin, prof de biologie, qui va répondre à nos questions.
Selon vous, les plantes peuvent-elles apprendre et mémoriser ?
Pour moi, oui, les plantes sont capables d'apprendre et de mémoriser parce qu'elles perçoivent leur environnement. Donc on sait déjà que les plantes, si je ne dis pas de bêtises, sont capables d'apprivoiser donc leur environnement et de s'adapter à leur environnement.
Merci. Selon vous, comment les plantes communiquent-elles entre elles ?
Alors, les plantes elles peuvent communiquer de différentes façons. Après, un exemple très simple, les plantes, il y a la présence de ce qu'on appelle des phytohormones. En fait, c'est des substances, des composés volatiles de plantes hein, qui sont émis par ces plantes. Et donc, il y a des éléments chimiques qui prouvent que les plantes peuvent certainement échanger entre elles, en tout cas interagir.
D'accord. Quelles sont les implications éthiques de l'intelligence des plantes ?
C'est une bonne question. Alors là, j'ai du mal à faire le lien entre le côté éthique et intelligence des plantes. Parce qu'au niveau éthique, on va dire, c'est quand même plutôt, quand on parle d'éthique, on est plutôt sur l'action de l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire avec ses plantes, etc., quand il les modifie. Mais l'implication éthique par rapport à leur intelligence, là, je sais pas quoi vous répondre, là.
C'est souvent, quand on parle d'intelligence, c'est une espèce, c'est souvent un cerveau et un moyen de réfléchir. Or, les plantes n'ont pas de cerveau. Mais alors, du coup, comment elles peuvent réfléchir si elles n'ont pas de cerveau ?
Alors justement, c'est la notion de ce que vous parlez d'intégration justement des informations. Et donc nous, oui, l'espèce humaine a un cerveau, donc c'est là où tout se passe, on va dire, notre boîte noire, entre guillemets, mais où tout va s'effectuer, on va percevoir et puis après, à partir de là, on va agir. Les plantes, oui, il n'y a pas de cerveau, mais les scientifiques ont déjà montré et montrent déjà que les plantes sont capables de percevoir l'environnement et de s'adapter vis-à-vis de leur environnement. Alors bien sûr qu'elles ne sont pas mobiles, etc. Il y a des adaptations qui sont peut-être un peu plus moins importantes que ce qu'on pourrait faire nous, l'homme, avec un grand H. Mais en tout cas, j'estime que moi, les plantes sont capables d'agir, et en tout cas de faire des petites actions, et donc de conscientiser. Alors, je ne sais pas, on parlait de conscience, mais en tout cas de comprendre ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir essayer de s'adapter au mieux. Ok.
Savez-vous comment les scientifiques utilisent le numérique pour étudier l'intelligence des plantes, pour savoir comment elles peuvent réfléchir et s'adapter à notre environnement ?
Alors là, clairement, non. Alors après, je pense qu'il y a des... si, les scientifiques, après, je pense qu'ils font des mesures expérimentales avec des capteurs, etc., au niveau des végétaux. Donc ça, je pense qu'ils utilisent le numérique pour essayer de mesurer des paramètres au niveau des plantes. Je pense que c'est voilà, ça doit se faire. Il suffit d'aller chercher peut-être des informations sur le site de l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale. Et là, il y aura, je pense, des équipes scientifiques qui montrent ça. Voilà.
Okay. Bah, merci bien.
Aujourd'hui, nous explorons un sujet au croisement de la technologie et du vivant. La révolution numérique permet-elle de mieux préserver les végétaux ?
Aujourd'hui, le numérique est partout dans notre quotidien, y compris dans le monde agricole et horticole. Des capteurs connectés aux drones en passant par les applications de suivi des cultures, les nouvelles technologies transforment notre manière de travailler avec le vivant. Mais ces innovations permettent-elles réellement de mieux préserver les végétaux et l'environnement ?
C'est la question que nous allons nous poser dans ce projet radio. À des outils utilisés en horticulture, nous verrons à quoi la révolution numérique peut devenir un atout pour la protection des plantes tout en interrogeant ses limites.
En conclusion, les plantes possèdent des capacités d'apprentissage et de mémorisation. Par exemple, elles peuvent réagir différemment à des stimuli environnementaux après une période d'exposition, ce qui indique une forme de mémorisation.
Les plantes communiquent entre elles en faisant des signaux chimiques pour communiquer. Elles peuvent par exemple émettre des substances pour alerter d'autres plantes en cas de danger, comme une attaque de parasites. Cette communication permet une meilleure adaptation et survie collective. Il y a d'ailleurs une très bonne BD sur le génie de la forêt, faite par Vincent Zabou, Francis Allais et Nicobi, publiée en 2025 par Albin Michel. C'est une BD sur le génie de la forêt qui explique comment les plantes fonctionnent dans certains éléments, avec à la fin un petit dictionnaire pour expliquer les mots un peu plus compliqués. Cette BD a participé à la sélection 2025 du prix BD Boom.
La reconnaissance de l'intelligence des plantes soulève des questions éthiques importantes. Si les plantes possèdent des capacités cognitives, cela pourrait redéfinir notre relation avec le monde végétal et influencer nos pratiques agricoles et environnementales.
Les scientifiques font leurs recherches grâce à de petits capteurs, les phytochromes qui sont sensibles aux nuances du rouge et à l'IA.
Merci à notre classe de seconde, c'est BJ Horti, aux interviewés et surtout à vous, écouteurs de ce podcast. Ce podcast peut être retrouvé sur studiozef.fr.
Nous vous retrouvons en janvier 2026 avec notre classe qui préparera un nouveau podcast sur le thème des droits des femmes. N'oublions pas qu'aussi que toute l'année, le vendredi, toute la journée, nous pouvons acheter bouquets et compositions au lycée horticole de Blois.
C'était Théo et Mathéo, élèves en seconde CPJ Horti. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et un joyeux Noël et une bonne année. Voilà.
Lost in translation, broken promise, words that